Si vous avez suffisamment bien entendu, par contre.
L'expressionnisme revendique une représentation subjective du monde en contradiction avec le réalisme ordinaire du cinéma. Il a ainsi souvent recours à des décors composés de toiles peintes, dont les motifs sont très stylisés, parfois jusqu'à l'abstraction. Le cabinet du docteur Caligari, de Robert Vineux, fait à cet égard figure d'œuvre manifeste. L'espace urbain prend la forme d'un dédale de ruelles enchevêtrées, suivant des lignes obliques, et les façades des maisons composent une perspective déformée. Si bien que la représentation de la ville semble tout droit sortie de l'esprit malade du personnage principal, un hypnotiseur fou. La plupart des films de cette période développent un climat de mystère et d'oppression qui s'appuie sur un éclairage très contrasté, comme dans Raskolnikov, où l'opposition entre les masses sombres et les zones claires exprime les désordres mentaux du personnage. Le très célèbre Nosferatu de Murnau est moins radical au niveau de l'expérimentation plastique et utilise plusieurs extérieurs naturels. Mais chez Murnau, la nature elle-même est un véritable univers hanté qui alimente une atmosphère tout aussi anxiogène, comme l'illustre la séquence de l'arrivée au château de Nosferatu. La force expressive du film est demeurée intacte, comme l'illustre la scène de surgissement du vampire sur le voilier qui transporte la peste. D'une manière générale, la lumière et les décors sont les ingrédients essentiels de l'esthétique expressionniste. Ils défient délibérément les règles de l'équilibre et de la raison pour refléter l'état d'esprit de personnages maléfiques. Les films expressionnistes regorgent d'individus ou d'entités particulièrement inquiétants, dont la principale ambition consiste à étendre leur emprise sur le monde pour la servir. Montreur de monstres dans les foires en même temps que médecin, Caligari manipule son somnambule par l'hypnose et lui fait commettre plusieurs crimes atroces. Le génie du crime de Fritz Lang, le docteur Mabuse, est un psychanalyste qui recourt aussi à des pratiques hypnotiques pour ses activités criminelles, tandis que dans Les mains d'Orlac, un pianiste mutilé perd son libre arbitre après s'être fait greffer les mains d'un assassin. Quelques années plus tard, le jeune homme de l'étudiant de Prague vend à Satan son reflet dans le miroir. Doté d'une existence propre, il se transforme bientôt en un double démoniaque de l'étudiant. Si la gigantesque statue vivante du golem est créée par un magicien dans le but de sauver le peuple juif, sa puissance destructrice est ensuite détournée à des fins de vengeance personnelle, si bien que le colosse sème la terreur autour de lui. Que l'on se plonge dans les légendes du passé ou que l'on se projette dans la science-fiction, les figures maléfiques aux ambitions totalitaires peuplent les films expressionnistes. Comme en témoigne la ville futuriste de Metropolis, où les ouvriers sont réduits en esclavage et sacrifiés aux machines, par une classe dominante, omnipotente, incarnant les excès du capitalisme. La volonté de puissance qui caractérise ce bestiaire maléfique témoigne d'une certaine façon des bouleversements et des inquiétudes qui agitent la vie quotidienne allemande dans les années 1920. L'Allemagne est non seulement sortie vaincue de la Première Guerre mondiale, mais elle est aussi humiliée par les conditions imposées à l'armistice. Peu après, la nation se retrouve désorientée par d'énormes difficultés économiques.
Je vais m'arrêter là parce qu'après, c'est pas tant sûr pour parler de l'histoire même, enfin de la relation historique avec graphique et le style visuel surtout qui est très très présent chez lui, et ça peut être l'occasion, on en reparlera aussi tout à l'heure sur les films rebond, de ce lien cinématographique. Johnny Depp d'ailleurs raconte aussi, toujours en lien avec le cinéma et le cinéma muet, il raconte que, on peut le voir d'ailleurs, le personnage d'Edward, c'est un personnage en noir et blanc qui vit dans un monde en couleur. Qui peut être considéré quelque part comme un espèce d'héritier du cinéma muet. Johnny Depp dit qu'il a volontairement supprimé des tas de répliques pour parler le moins possible dans le film, et développé aussi une expression corporelle, une gestuelle bien particulière. On peut souvent penser sur certaines scènes, avec en plus l'espèce de gaucherie qui va un petit peu développer dans sa gestuelle, on peut faire des ponts avec Buster Keaton ou un peu Chaplin aussi, sur les personnages du muet qui doivent, qui sont à la fois un petit peu comiques, en fait, quelque part, et qui doivent faire passer, évidemment, des tas d'émotions par leur regard et par leur gestuelle. D'ailleurs, Burton fait aussi quelque chose qu'on faisait assez souvent dans le cinéma muet, qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est d'accepter de la part de son personnage principal des regards caméra, aussi de briser un peu le quatrième mur. Plusieurs fois, le personnage d'Edward en fait semble regarder la caméra, ou en tout cas il regarde pas loin du spectateur, et c'est quelque chose que aujourd'hui on évite, mais qui crée aussi ce décalage qui se faisait parfois dans certaines œuvres du cinéma muet. Le lien avec le gothique, bien évidemment, qui est aussi extrêmement présent. En 1818 sort Frankenstein ou le Prométhée moderne de la Britannique Mary Shelley, qui va connaître un vaste succès et qui va faire de cette créature, de la créature de Frankenstein, un conte et qui va marquer très clairement toute la mythologie moderne jusqu'à aujourd'hui. On continue parce qu'il y a plein de films sur Frankenstein qui sortent encore récemment. Burton lui est très 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 clairement inspiré de cette histoire-là. Déjà, on l'avait dit tout à l'heure, sur un de ses premiers courts-métrages, donc Frankenweenie, il s'en inspire beaucoup. Et ici aussi, dans Édouard Main d'Argent, on trouve énormément de ponts, notamment envers l'adaptation de 1931 de Frankenstein par James Whale pour la Universal. On retrouve à la fois cette idée de la créature inachevée, de la créature désespérée, qui a du coup une espèce de problématique avec son créateur et qui va aussi rencontrer des humains qui vont au bout d'un moment devenir intolérants ou brutaux. Ça va finir par une espèce de déchaînement de violence. Et le personnage d'Edward, comme le personnage du monstre de Frankenstein, il est en fait fondamentalement bon, mais il finit par tuer souvent face à l'agression des autres, il finit par se défendre. C'est ce qui arrive d'ailleurs aussi à la fin des Dents de Main d'Argent, puisque Edward finit par tuer Jim, le petit copain de Kim, qui, dans une Lorraine Rix. Bon, c'est quelque chose que Burton, non, c'est pas qu'il regrette, mais en interview, il dit que c'était probablement quelque chose d'un peu refoulé de mon adolescence pour me venger des footballeurs du bahut. Mais voilà, il accepte cette note de noirceur, comme ça arrive au personnage de Frankenstein dans le film de James Whale, où il va tuer une ou deux personnes, et même, il y a des tas de ponts qui se font, notamment quand Frankenstein, lui, se fait chasser par une horde de villageois avec leur lance, hein. Vous avez déjà vu peut-être cette image, on retrouve ça ici, quand tous les habitants du quartier essayent de retrouver Edward dans son château. Il y a aussi la scène où Edward va blesser malencontreusement Kim en lui lacérant la joue sans le vouloir. Dans Frankenstein, il y a cette espèce d'idée dans laquelle, pour en jouant avec une enfant, malencontreusement, il la jette à l'eau et elle finit par se noyer. Donc il y a ce rapport, cette apparence et cette idée chez Burton, que les monstres ont une humanité et que parfois même les monstres sont plus humains que les humains. Et c'est quelque chose que je trouve très juste et qui s'applique aussi souvent dans son cinéma. Et puis il y a bien sûr l'importance du gothique en général. Alors Frankenstein, ça fait partie de la mouvance, on va dire, gothique, le gothique qui est artistiquement, qui est apparu au XVIIIe siècle. Il y a beaucoup d'auteurs gothiques, dont Mary Shelley. C'est une rupture très claire avec les Lumières, puisqu'ici on impose un style sombre de l'univers qui confronte les âmes tourmentées. On peut évidemment parler aussi des diapos, un rapport à l'occulte, à l'irrationnel, dans des paysages en ruine, les ombres qui sont, comme je le disais, extrêmement présentes, les cauchemars aussi. Donc, on vient bousculer la réalité stable. Et donc ici, on a très clairement aussi cette idée, et de rappeler aussi que ça fait partie aussi un petit peu de l'existence même des humains, ce côté sombre et ce côté gothique. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi cette idée d'inverser les polarités morales, Puisque ici, Edward, un peu comme Frankenstein, ben, il a le cœur tendre. Et depuis, à la fin, et c'est depuis son château qui va disperser cette fameuse neige dont on a posé la question au début du film, d'où vient la neige, eh ben, on verra donc un peu plus tard que c'est Edward qui l'a créé en taillant des blocs de glace. Donc il y a l'idée, en gros, pour Burton, d'inviter le spectateur à dépasser cette peur du noir, à dépasser cette peur du côté de la face sombre et aussi de l'inconnu, de l'étrange, pour découvrir un petit peu un autre monde. Il y a cette idée des mains aussi, alors juste un petit, juste pour vous donner un peu l'anecdote, mais les mains, ces fameux ciseaux, ils ont été créés par Stan Winston, qui était un grand spécialiste des effets spéciaux, qui était à l'origine des androïdes de Terminator, qui a créé le Predator aussi du film, du même nom. Et pour le tournage, ils ont utilisé deux modèles différents, mais c'est une question que je m'étais toujours un peu posée, comment ils avaient fait, enfin, on se doute, on voit un petit peu les effets, mais comment c'était fait réellement. Mais simplement, Johnny Depp portait pour la plupart du temps des gants souples avec des lames en polyuréthane, donc des lames en plastique rigides. Et puis pour les scènes de cisailles un peu plus complexes, où il fallait un peu des effets un peu plus réalistes, on va dire, il mettait des gants où il y avait de vraies lames dessus et qui étaient dirigées, actionnées par des marionnettistes en réalité, pour avoir cette illusion de coupe réaliste. Alors, on est toujours là-dessus aussi. Je vérifie aussi l'heure, ça va. On est bien. Et je retrouve mes notes aussi, pardon. Je fais une pause. Voilà, la création donc. La création d'Edward, on a toujours un lien, un pont avec la créature de Frankenstein. Ici, on a cette idée de ce Frankenstein, de cette créature, comme une machine, avec ce substitut à ses mains que sont ces ciseaux, qui représentent à la fois quand même un handicap et en même temps un pouvoir, ça peut être aussi des armes, même si pendant toute une partie du film, on va se servir de ça comme quelque chose de pratique, puisqu'on va demander à Edward de couper la salade, de faire les brochettes, de faire des choses comme ça. Il y a cette idée de l'hybridation un petit peu entre l'humain et la machine, et on va le voir justement sur la figure du créateur, c'est quelque chose qui revient très souvent, mais Edward est fabriqué justement par une machine, et crée clairement un mélange d'humain-machine, quasiment une espèce de cyborg. Et les mains sont toujours très présentes, d'ailleurs on les voit beaucoup, elles sont prééminentes, on les voit énormément. Souvent, Burton choisit des fois de filmer certaines scènes du point de vue d'Edward et il laisse toujours dépasser les ciseaux, comme si voilà, on était à la place d'Edward, et les ciseaux prennent une place. Il y a un moment, notamment une scène de dîner, quand il essaye de manger les petits pois, les ciseaux prennent beaucoup de place dans le champ, donc il y a cette espèce de chose qui est à la fois extrêmement gênante et qui est bien sûr un sujet un peu principal du film, de l'utilisation de cet outil, on va dire. Alors la figure du créateur, hop, j'y viens justement, c'est quelque chose donc très présent dans le cinéma de Burton, puisque dès les premiers, comme tout à l'heure on parlait de court-métrage, dès les premiers court-métrages, déjà dans Vincent en 1982, on parlait déjà d'un créateur, il était en scène un enfant qui se prenait pour un créateur, Frankenweenie n'en parlons pas. Donc c'est vraiment un motif central, et il y a un peu deux voies qui se dégagent un peu de tout ça, c'est à la fois la création via la science, et en même temps une création artistique qui développe quelque chose de concret. La création d'une œuvre va vraiment de pair avec la création de la vie, comme voilà, peuvent le faire ici le créateur, ou peuvent le faire Frankenstein dans le roman, par exemple. Alors, ici, il y a ce fameux créateur, ce père fondateur, j'allais dire, puisque le film est chargé de cette mémoire. Je parlais donc de la fascination qu'a Burton avec pour Vincent Price et cet écho qu'il a clairement avec le gothique. Alors Price, il a, c'est un acteur que j'aime énormément. Il a tourné dans beaucoup beaucoup de films à partir de la fin des années 30, début 40. Et dans Mon argent, ce sera son dernier film. Il décède peu de temps après. Et il a notamment été très célèbre dans les années 60 parce qu'il a participé à toute une série d'adaptations des romans d'Edgar Poe au cinéma, réalisée par Roger Corman, avec vraiment, donc il y a eu La chute de la maison Usher, Le Corbeau, il y en a eu plusieurs. Et il avait ce style qui était à la fois un mélange de raffinement, on le voit ici dans le film quand il se déplace, quand il parle. Il avait un raffinement que tout le monde aimait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensaient, parce qu'il avait une diction très particulière, tout le monde pensait qu'il était anglais, alors qu'il était, qu'il était de Pennsylvanie, il était bien américain. Mais il avait ce côté très précieux et en même temps ce côté extrêmement inquiétant qui va faire sortir à chaque fois dans les films d'horreur qu'il a pu faire. Un côté assez, un mélange entre ce côté assez excentrique et en même temps un grand enfant. Quand on écoute des interviews de Price où on voit pas mal d'images d'archives, on voit à quel point il était en fait malicieux, il était extrêmement drôle. Donc je pense que c'est aussi pour ça peut-être que Burton se retrouvait dans la figure de Vincent Price, cette espèce de mélange entre le gothique et en même temps entre l'humour et la poésie. Price était aussi un passionné de poésie, c'était un passionné de cuisine aussi. Pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, Price, c'est la fameuse voix que vous entendez à la fin du morceau Thriller de Michael Jackson, qui rit aux éclats. C'était sa voix aussi. Donc ici, c'est donc le créateur, j'allais dire, c'est quasiment le créateur de Tim Burton. C'est lui qui lui a inspiré cet amour du cinéma, et c'est donc aussi le créateur du personnage d'Edward. Il y a un parallèle qui peut se faire, je l'ai lu en préparant cette intervention, mais qui est pas inintéressant, qui peut se faire avec le premier film de Burton, Pee-wee Big Adventures, et le personnage de Pee-wee qui se sert de plein de machines, vous savez, pour créer, pour se faire cuire des œufs, pour créer des choses, et qui invente des machines extrêmement complexes pour faire des choses très simples. Ici, le personnage du créateur, c'est un peu la version gothique du personnage de Pee-wee, puisque comme lui, il crée des mécanismes très très complexes pour préparer son petit déjeuner. Il apparaît aussi dans une scène alors il apparaît à chaque fois dans des scènes de flashback, mais notamment à un moment, Edward se souvient de lui quand il voit une machine, je ne sais pas comment on appelle ça, mais une machine automatique qui ouvre les boîtes de conserve. Et cette espèce de machine automatique et ses rouages vont lui rappeler les rouages de son créateur et la machine qu'il a créée. Et en même temps, ces machines-là, souvent chez Burton, elles sont aussi assez drôles, assez enfantines. Elles ont un côté, elles ont parfois deux bras, deux jambes, un côté humain. Ce qui garde toujours ce côté enfantin, on peut toujours faire un parallèle avec ce qui a pu le marquer aussi, pourquoi pas chez Disney. Et ce côté anthropomorphisme avec des machines, notamment on voit une espèce de, dans le film de four, qui on dirait qu'il a une gueule grande ouverte, qu'il a deux yeux, et le tapis qui rentre à l'intérieur. Donc il y a ça, et puis le fait que tous ces engrenages vont aussi donner cette inspiration. Alors il y a ce fameux cœur, tout ce qui manque à cet engrenage, tout ce qui manque à ce côté mécanique, c'est un cœur, c'est une vie, et c'est l'âme qui va donner naissance à Edward. Alors Edward lui aussi est un créateur, puisque dans le film, alors j'avais mis, on va pas avoir le temps de le regarder, mais j'ai quand même inclus dans la présentation, le court-métrage Vincent, j'avais envie de vous, je mourrais d'envie de vous le montrer parce que je l'aime beaucoup, mais vous le regarderez chez nous. Alors, Edward lui aussi est un. Enfin, sauf si on a le temps, peut-être qu'on garde pour la fin, mais je pense pas qu'on aura le temps. Lui aussi est un créateur, il maîtrise du coup à merveille ses fameuses mains ciseaux. Pour créer cet art, notamment cette taille de buisson qu'on a pu voir tout à l'heure, donc il va s'amuser à, Tout le monde a demandé de tailler des buissons, des jardins pour créer des formes toutes complètement folles, des dinosaures, des dauphins, des ballerines, etc. Il va se découvrir aussi, entre guillemets, un talent de coiffeur, on le voit ici, qui va vraiment une espèce valider un peu la reconnaissance sociale qu'il va avoir dans ce quartier. Et en plus, cette image du créateur un peu excentrique, il fait ce qu'il veut, il improvise totalement des coiffures déstructurées, et tout le monde trouve ça absolument génial. Ça crée une espèce d'excitation. On peut évidemment, tout au long de tout ça, faire un parallèle avec la figure de l'artiste en soi, de son processus de création, et de ce que ça peut engendrer, chez le public ou non d'ailleurs, on verra après. Donc il y a cette idée de don et de malédiction en même temps, et il y a le don à quel point il maîtrise aussi bien cet outil, et qui lui permet d'être accepté pleinement dans la société, mais d'être accepté à condition que son art reste cet art un petit peu inoffensif, cet art voilà, qui fait plaisir, un peu consensuel, qui fait plaisir à tout le monde. Et aussi, d'ailleurs, au bout d'un moment, les protagonistes vont y venir, mais on va lui demander de faire en sorte que cet art, ça devienne aussi un art commercial. Donc on va lui proposer de s'installer dans un salon de beauté pour gagner de l'argent, parce que le père de famille, notamment, va lui dire « c'est bien beau de travailler, de faire des œuvres, mais il faut aussi que tu gagnes de l'argent. Donc peut-être qu'on va, on va te faire payer peut-être tes interventions. » Donc il faut se conformer un petit peu au modèle de cette société, hein, qui va essayer de le faire rentrer dans le moule. Il y a aussi la question, c'est abordé dans certains dialogues, la question du handicap, qui peut être à la fois ses mains qui peuvent être considérées comme un handicap, et aussi l'handicap social d'ailleurs, de la façon dont se comporte Edward dans cette société conformiste et normée en tout cas. Pareil, le lien, je pense, avec l'artiste et avec Burton peut paraître assez évident. Ses mains définissent vraiment simplement sa fonction, et on le réduit simplement à ça. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il va rester quand même uniquement basé là-dessus, c'est-à-dire que son personnage ne va pas forcément beaucoup évoluer, puisque contrairement à ce qui peut arriver dans d'autres contes, ici il restera toujours avec ses mains, avec cette espèce entre guillemets de don handicap, et finira seul, par créer seul dans son château. Il sera rejeté de tout s'il est un petit peu hors du temps par rapport à cette société. Alors on peut en faire, pourquoi pas, je ne sais pas si c'était vraiment la volonté de Burton, mais on peut en faire volontiers aussi une lecture un peu plus politique. Dans le film, plusieurs fois, alors à un moment, il y a un vieux monsieur qui vient le voir et qui lui explique que c'est un vétéran de la guerre et qu'il a des éclats d'obus dans la hanche, donc que lui aussi, il a un problème. Et donc, il comprend Edward qui a ce problème de main. Et c'est une espèce de running gag. Plusieurs fois dans le film, on va lui dire « si vous voulez, je connais un très bon médecin qui peut vous aider ». Donc, il y a cette espèce d'idée qu'il faut quand même guérir de ce mal, qu'il faut guérir de cette j'allais dire, difformité. Ça revient plusieurs fois, la question de la chirurgie en plus, quelque chose dont on parlait déjà beaucoup à l'époque aux États-Unis. Donc l'idée de se conformer à cette société. Et le fait de faire référence à ce handicap, c'est à la fois ce côté différence, reconnaissance de la société, mais c'est ce côté différence. Il ne peut pas vraiment s'adapter à la société tant qu'il a cet handicap, ces mains ciseaux, et c'est vraiment ce qui le définit donc pour la plupart des gens dans cet univers. Et je pense que ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de réussir à voir tous les parallèles qu'on peut faire avec la vie d'un artiste en général, et de voir comment ça peut refléter cette question de la société et de la place de l'artiste dans la société. Je vous ai noté, alors bien, on en trouve plusieurs, mais j'ai écouté notamment un podcast sur France Culture, à quoi reconnaît-on un artiste. Des questions de l'enjeu, peut-être quelque chose qui peut nourrir aussi des réflexions dans votre approche du film. Il y en a d'autres, j'en ai pas cité d'autres, mais en tout cas celui-là, il dure 40 minutes, Et il pose des questions assez intéressantes sur, voilà, bah, entre guillemets, la place de l'artiste dans la société, et surtout bah, la place aussi de qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la place pécuniaire, j'allais dire aussi, comment à la fois gagner sa vie, et est-ce qu'un artiste, à partir du moment où il gagne de l'argent, etc., bon, ça soulève des tas de questions qu'on peut un peu relier aussi à ce film-là. Il y a aussi quelque chose, toujours pareil, en lien avec l'idée de l'artiste, j'allais dire maudit, de l'artiste malheureux, c'est cette incapacité à approcher l'autre aussi, qui va être assez présent, l'incapacité du contact, j'ai marqué. Puisque, alors, notamment dans un flashback où on voit son créateur qui est sur le point de lui donner les mains, ses mains justement, son créateur, malheureusement, pile à ce moment-là, il décède, on imagine qu'il fait une crise cardiaque, il tombe, Edward, sans faire exprès, détruit ses mains, et quand il va vouloir venir caresser la joue de son créateur au sol, il va lui entailler la joue et il va commencer à le faire saigner. Pareil avec évidemment le personnage de Kim, dont il va commencer à tomber amoureux, dont il va se trouver très proche, mais il y a cette espèce d'incapacité physique de s'approcher d'elle. À un moment donné, elle lui dit, on l'a vu dans l'annonce, elle lui dit, prends-moi dans tes bras, et il dit, je ne peux pas. Il a la peur de faire souffrir aussi l'autre, et du coup d'être quasiment sur un plan différent de l'autre, et ce que peuvent aussi parfois ressentir certains artistes, c'est cette idée qu'ils ne font pas partie, entre guillemets, du même monde, et qu'ils peuvent aussi, ils sont à la marge, justement. Il y a l'idée de partager un petit peu les choses qui peuvent à la fois être une vraie source d'épanouissement et de gratitude envers les autres, et en même temps une source de souffrance. C'est aussi un petit peu ça qui peut ressortir de cette idée. Il y a aussi cette idée à la fin très créative, aussi très, très belle, sur alors peut-être que je suis sur le slide, je ne sais plus. Non, pas tout à fait, mais ça vient après. La création à la toute fin du film, on le voit aussi un peu avant, mais la création sur les blocs de glace de la part d'Edward, qui va se mettre à créer des œuvres absolument monumentales à partir du bloc de glace, et qui va créer avec ces blocs la neige. Donc il y a aussi l'idée de cet artiste créateur, donc on revient à l'idée du créateur dont on parlait tout à l'heure, avec une image quasi, on voit surtout à la fin, une image quasi divine de l'artiste qui donne naissance. Avec cette légende en plus, hein, puisque Kim, quand elle raconte cette histoire, on est clairement sous le prisme d'une légende de ce qui a pu être créé. J'accélère un petit peu. Le portrait, du coup, l'incarnation de Johnny Depp est quand même assez incroyable et évidemment centrale dans ce film, où il met à distance sa beauté qui était réputée à l'époque. Il choisit vraiment ici de l'enlaidir, ça fait partie du personnage, avec cette espèce de pâleur surnaturelle, ses cheveux ébouriffés, clairement hérité de Tim Burton, et puis ses cicatrices aussi, tout au long du visage, et ce visage un peu en porcelaine, et avec cette espèce de running gag assez drôle du personnage de Peg, puisqu'elle travaille dans la cosmétique, qui essaie tout au long du film de lui appliquer des crèmes pour faire partir sa cicatrice et pour essayer de lisser son visage, alors qu'il a une espèce d'expressivité très forte, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais sur la crainte, la surprise, la tristesse qui rejaillissent vraiment sur son personnage, qui lui donne aussi presque un aspect quasi enfantin. Et il y a aussi d'ailleurs le personnage la scénariste Caroline Thompson dit aussi qu'elle s'est inspirée pour le personnage de son chien. Et effectivement, d'ailleurs, dans le film, Edward a un moment un rapport particulier avec un chien où, quand il est sur le point de s'enfuir, il y a un chien qui vient se mettre à côté de lui, qui s'assoit à côté de lui, c'est le seul, alors que tout le monde est en train de lui courir après parce qu'il est recherché par la police, que les habitants lui en veulent et qu'ils veulent essayer de le faire fuir. C'est le seul personnage, entre guillemets, c'est le seul être qui accepte de venir s'asseoir à côté de lui. Il va lui proposer une toute petite coupe de cheveux en passant, mais on comprend que c'est son ami. Et en fait, Caroline Thompson raconte qu'elle a essayé aussi de lui donner les traits de caractère de cette espèce de chien qui, au début, est Et cet être fragile qui suit d'ailleurs, qui est très fidèle à sa famille, qui en même temps assez, j'allais dire pleureux, enfin, en tout cas qui a peur du monde qui l'entoure, qui peut être assez brutal. Donc il y a cette espèce de naïveté un petit peu de ce personnage, qui est même clairement présente, qui est intéressante. Il parle aussi, Burton et puis surtout la scénariste, de une des sources d'inspiration aussi, qui est un roman de Baudelaire, qui s'appelle L'Albatros. Et on peut y faire ici, on peut trouver un lien, je vais vous le faire écouter, ça dure 1 minute 30, c'est vite fait, un lien que vous allez voir avec la façon dont est décrit l'albatros dans ce poème et un lien avec le physique à la fois d'Edward et aussi la façon dont il se comporte en société. Je propose d'écouter l'albatros qui est lu ici par Serge Reggiani.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Voilà, quand on se projette un peu, on peut trouver des parallèles avec, avec ce personnage-là. D'ailleurs, il y a un plan, pas qu'une fois, mais il y a un plan assez, assez évident quand il rentre dans le salon de coiffure, hein, il regarde le mur et il déploie comme ça ses ciseaux, on dirait vraiment qu'il déploie ses ailes. Il y a l'idée ici que la grâce de cet oiseau dans les airs qui, avec ses ailes, deviennent une source de gêne une fois sur Terre. Donc ce personnage qui avait cette grâce dans son château, dans les airs, et qui, quand il redescend parmi les humains, est bien gêné par, par ces ailes-là. Et puis, cette espèce d'allégorie d'artiste dont on parlait, qu'on entend ici à travers ces vers. Un mot quand même sur le personnage de King, parce que j'en ai pas encore parlé. Elle incarne ici très clairement la jonction entre les deux, hein, donc entre la banlieue très normée et en même temps l'étrangeté qu'elle a dans son comportement, hein, dans la façon dont elle joue, et le lien qu'elle fait avec Edward dans son étrangeté un peu poétique. Et c'est d'ailleurs par elle, un petit peu, qu'il entre, par elle et puis la maman, par Peg, qu'il entre dans la vie normale et qu'il en ressort aussi quand il devra prendre la fuite et rentrer chez lui. Elle est à la fois cette espèce d'idée de passage et en même temps d'impasse, puisqu'à la fin, il lui fait clairement comprendre que leur amour est impossible et qu'il va devoir partir. C'est un peu une des seules personnes à vraiment percevoir ce qu'il est et pas ce qu'il semble être, même si la mère aussi est dans cette optique-là, mais à certains moments, la mère finit par prendre un petit peu le côté de la société. Elle reste Kim d'aplomb dans cette idée-là. Et puis il y a aussi cette idée que ce personnage peut représenter le moment un peu charnière de l'adolescence, ce qui a été aussi quelque chose un peu traumatique chez Burton, où ici elle se heurte un peu la jeune adolescente qui est une pom-pom girl, un peu une fille populaire, un petit peu superficielle au début du film, et qui va se heurter vraiment à la cruauté de la société, à la violence aussi dans la chasse envers Edward. et elle va comprendre un petit peu le monde autour d'elle. Donc c'est pas simplement un simple love interest ici, elle est vraiment une espèce de gardienne un petit peu de cet amour, et leur relation repose aussi beaucoup sur elle. Voilà pour les différentes thématiques. Au final, j'ai un petit peu rushé, mais on a un petit peu de temps. Les films rebonds, comme d'habitude, il y en a beaucoup, mais j'en ai fait une toute petite sélection. Alors, tout à l'heure, on a vu des extraits du cabinet du docteur Caligari, 1920, pour l'aspect purement déjà visuel, même d'ailleurs dans le personnage principal, hein, de celui qui est hypnotisé, j'ai oublié le nom du personnage, mais qui peut très clairement faire penser à Edward, et puis surtout par ses décors complètement baroques, complètement distordus. Ensuite, on en a parlé longuement, le Frankenstein de James Whale en 1931, qui est un chef-d'œuvre absolu. On peut penser aussi à Elephant Man, d'ailleurs la carrière de David Lynch a pas mal de parallèles avec la carrière de Burton, un petit peu dans leur approche face au cinéma hollywoodien et surtout leur côté très, très excentrique et très en marge du système hollywoodien. Donc les deux cinéastes, même s'ils ont un univers très différent, peuvent aussi être vus ensemble. Et donc Elephant Man en plus, pareil, c'est ce personnage qui doit se cacher des autres, qui est différent. Donc des vraies problématiques. Et puis j'ai mis Coraline pour rester aussi, pour parler de cinéma, d'animation, de stop motion. Donc réalisé par Henri Selick, pas Selznick, Selick, qui avait réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack, déjà produit par Burton. Et on retrouve dans l'univers ici de Coraline, cet univers baroque, cette fille qui va découvrir un autre monde, qui va découvrir une autre étrangeté aussi à travers un monde qu'elle pense connaître mais qui finalement n'est pas celui qu'elle croit être. C'est un très joli film d'animation aussi, très drôle et très bien fait, que je vous conseille. Je passe pour ça. Et les pistes pédagogiques, j'en ai mis quelques-unes. Bien évidemment la question de la différence. Puisque ben voilà, on peut se poser la question de comment est perçu Edward au début par les habitants, pourquoi aussi ce regard change, et qu'est-ce qui fait aussi, qu'est-ce que ça dit de la peur de l'autre, du conformisme aussi. Je m'aperçois que je n'ai pas rajouté pendant que je le lis, j'aurais pu aborder aussi la question de l'artiste là-dedans, dans cette partie-là, mais vous avez compris l'idée. L'esthétique du conte aussi, hein, pourquoi le film peut ressembler à un conte de fées, les couleurs, les décors aussi, et puis les mondes opposés. Et le personnage d'Edward, donc, qu'est-ce qui fait qu'il est perçu comme un monstre, et comment on joue avec les codes aussi du film de monstre, et pourquoi il peut être considéré parfois comme le plus humain du film. Voilà pour les différentes pistes pédagogiques.